Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique.
En 2002, ce siècle avait 2 ans et on célébrait le bicentenaire de la naissance de Victor Hugo. À cette occasion, une série de 6 conférences consacrées à Hugo était donnée à la Bibliothèque nationale. Pour la 5e d'entre elles, Mona Ozouf était conviée à parler de l'histoire et de la politique dans Les Misérables. Pendant 1 heure, la spécialiste de la Révolution française qu'elle est démontrait avec enthousiasme que Les Misérables n'étaient en rien la profession de foi progressiste que certains ont longtemps voulu y voir. Mettant en évidence la complexité et l'ambivalence des personnages de son récit, elle réfutait le manichéisme dont on a taxé Hugo à propos de ce roman qui, en son temps, fut très mal reçu par la critique de toutes les obédiences politiques et artistiques. « Les Misérables sont un continent », dit-elle. Nul doute qu'après avoir exploré avec Mona Ozouf cette œuvre qu'elle qualifie elle-même de monstrueuse, on voudra se précipiter pour relire ou lire Les Misérables en oubliant les tentatives d'adaptation perdues d'avance que le cinéma et la télévision en ont données. Victor Hugo et Les Misérables, une conférence donnée par Mona Ozouf à la Bibliothèque nationale de France, diffusée le 2 août 2002 sur France Culture.
Mesdames, Messieurs, mes chers collègues, mes chers amis, j'ai choisi ce soir de parler de l'histoire et de la politique dans Les Misérables. Les Misérables sont un continent que l'on peut explorer en empruntant des chemins contrastés. On peut les lire comme un roman d'amour, et c'est bien ainsi du reste qu'on les lit à 15 ans, quand on suit Marius et Cosette à la trace, dans l'épaisseur des pages et quand on saute allègrement sur les énormes massifs des digressions hugoliennes. On peut les lire aussi comme un grand roman religieux, celui de l'expiation et de la rédemption d'un coupable. On peut les lire comme un roman policier, qui est fait des 1001 filatures. La filature de Valjean par Javert, la filature de Thénardier par Marius, et puis la filature de Marius, Cosette et Valjean par Thénardier. Et puis, on peut les lire comme un roman plein à ras-bord de l'histoire et de la politique du siècle, et c'est sous cet angle que j'ai choisi de l'envisager ce soir avec vous. Rien n'est moins désincarné que Les Misérables, où on ne peut oublier une minute l'histoire contemporaine qui s'est infiltrée partout dans le récit romanesque avec ses personnages notoires, ses événements, une chanson de Béranger ici, un prêche du duc de Rohan au couvent du Petit Picpus là, des commentaires sur le théâtre et sur le jeu de Mademoiselle Mars, enfin. Mais ce qui frappe le plus le lecteur des Misérables, c'est l'extrême liberté, pour ne pas dire la désinvolture, avec laquelle Hugo traite la chronologie. Car si on s'en tient aux faits, le roman commence en 1815 et s'achève en 1833. Mais Hugo ne se limite nullement à cette durée temporelle. Il l'étire constamment vers l'amont en y faisant entrer le XVIIIe siècle à travers les personnages de l'évêque, du vieux conventionnel, du père Mabeuf et surtout de Luc Esprit Gillenormand, le grand-père de Marius, qui est à lui seul une butte témoin du siècle des Lumières. Et puis, il étire la durée temporelle vers l'aval, en se permettant, par exemple, de prolonger le récit de la barricade de la rue de la Chanvrerie en 1832 par l'évocation des barricades de 1848 et en s'autorisant même à incorporer au récit le moment où il est en train de fignoler et de mettre la dernière main au manuscrit des Misérables, c'est-à-dire en 1861. Une durée par conséquent très élastique, et qui plus est, dans laquelle Hugo voyage en zigzag, par exemple, il n'hésite pas à faire précéder le récit de Waterloo d'un survol de l'année 1817. Retournons en arrière, dit-il tout simplement, ce sont là les privilèges du narrateur. Et du reste, on pourrait plaider que cette manière syncopée, heurtée, qui est faite de retours, de reprises, de brusques accélérations, de volte-face, est particulièrement accordée à un siècle politique qui est celui des départs et des retours, des exils et des retrouvailles. Cette extrême liberté se mesure encore à la manière de traiter les grands événements que Hugo a incorporés à son récit, comme cette bataille de Waterloo, traitée dans des proportions jugées tout à fait excessives par des gens comme Lamartine ou comme Barbet, qui font remarquer que le lien de l'énorme section consacrée à la bataille dans Les Misérables avec le roman est un lien fort ténu, puisque si on s'en tient aux seules nécessités de l'intrigue, il suffit seulement de dire comment Thénardier, sur le champ de bataille, a involontairement rendu, en le détroussant, la vie au colonel Pontmercy, le père de Marius. Comme vous savez tous, le thème de Waterloo a été aussi traité par Stendhal dans les pages de la Chartreuse, et la comparaison des deux récits permet de comprendre la manière dont Hugo traite son sujet. Vous savez que Stendhal traite son sujet dans la perspective étroite d'une cervelle ingénue, celle de Fabrice. Fabrice est perdu dans une multitude indistincte d'hommes, de chevaux, de labour boueux. Rien n'a l'air de faire sens ni de faire groupe dans une bataille intermittente qui s'éparpille partout et nulle part, qui est discontinue. Et du reste, Fabrice passe tout son temps à chercher son régiment dans une cohue confuse où il ne comprend rien. Et pour finir, il se demande avec quelque anxiété s'il a bien participé à une bataille. Alors le parti pris de Hugo est exactement inverse. Hugo adopte sur la bataille le regard panoramique. Il tient sous son regard à la fois les plateaux, les plaines, les ravins, les chemins creux. Il dénombre les régiments belges et les hussards de Hanovre. Il fait manœuvrer au moins 26 bataillons à la fois et il voit des choses que Napoléon lui-même n'a pas vu. Un regard qui eût sondé attentivement toute cette brume eût pu remarquer à quelque distance une ornière invisible mais terrible et cause majeure de la bataille. Bref, Hugo porte sur la bataille un regard surplombant qui est le regard de Dieu en personne. Il admet qu'il ne fait pas l'histoire de Waterloo parce que, dit-il, il est dépourvu pour cela de compétences stratégiques ou de pratiques militaires. Mais il fait beaucoup mieux, car il adopte sur la bataille la perspective du tout, avec un T majuscule, que, dit-il, il faut avoir en tête si on veut comprendre les Misérables. Et il justifie la démesure de son récit. Pour peindre une bataille, il faut de ces puissants peintres qui aient du chaos dans le pinceau. Et j'ajouterai qu'il faut une plume qui ait le sens de ce qui est en train de se jouer à Waterloo, parce que Hugo veut montrer que ce qui est en train de s'écrouler à Waterloo dans le fracas des armes accouche d'une humanité qui désormais est irrémédiablement divisée et mixte. Pourquoi ? Parce que Waterloo, en un sens, c'est bien la révolution vaincue. Mais en un autre sens, c'est, dit-il, la révolution victorieuse, c'est l'avènement d'une société désormais métisse et d'un monde où les héros appartiennent à la prose. Puisque, comme vous le savez aussi, le vrai héros de la bataille pour Hugo, ce n'est pas Napoléon, mais c'est Cambronne et son célèbre mot. Alors, ce mot ne plaît pas à tout le monde, et Lamartine grommelle dans son coin que ce Cambronne aurait beaucoup mieux fait de se taire dans un texte pudibond et, il faut le dire, assez plat. À quoi Hugo rétorque, victorieusement, en exaltant cet officier obscur qui a su répondre à l'ultimatum de l'ennemi avec le mot le plus démocratique de la langue française. Et le sens de Waterloo apparaît alors à plein. C'est certes d'un côté une défaite qui marque la fin de l'âge des sabreurs, mais c'est aussi la victoire du misérable des mots et de l'homme obscur qui l'a prononcé. Et c'est donc un changement de front de l'univers où les exploits des grands chefs compteront peu désormais au regard du mot de Cambronne. Et là, on voit très bien comment la vision historique de Hugo s'affranchit de l'historiographie. Hugo sort de l'histoire officielle du côté du symbole. Mais il en sort aussi du côté exactement opposé, qui est celui de l'infiniment petit et du détail insignifiant. C'est le sens du chapitre en guise de rébus consacré à l'année 1817, qui est entièrement fait du raboutage. Barbet d'Orville disait de Hugo qu'il était un parqueteur, donc qui est entièrement fait du raboutage de petites notations apparemment sans intérêt. Les chansons que chantaient les jeunes filles ces années-là, le format des journaux, le grattage des grands N majuscules sur la façade du Louvre, la charmante toilette de Monsieur de Chateaubriand à sa fenêtre rue Saint-Dominique, le sujet mis au concours cette année-là de l'Académie française, le bonheur que procure l'étude. Une brocante, par conséquent, de minuscules détails, apparemment dérisoires, sans importance historique, mais pourvu pourtant, selon Hugo, d'un sens profond, qui est la désagrégation. Tous ces détails rappellent la désagrégation d'une société qui vient de perdre, avec l'empereur, son centre de gravité. Tous mettent en évidence la politique pratiquée par Louis XVIII, une politique d'amnésie qui entraîne le rapetissement des ambitions et qui entraîne l'effacement matériel des traces laissées sur Paris par l'empereur. Et par exemple, dans les contre-allées du Champ de Mars, on aperçoit des cylindres de bois bleu avec des traces d'aigles et d'abeilles dorées en train de pourrir. On lit encore au fronton de l'Odéon, théâtre de l'impératrice, dont on a pourtant arraché les lettres, mais on les voit encore. Et puis on voit le pont d'Austerlitz recyclé en pont du jardin du roi. Et de l'autre côté, on repeint de frais les boutiques des perruquiers qui escomptent la fortune du retour prévisible des perruques poudrées. Bref, toute cette grenaille de faits insignifiants montre une société qui est gagnée désormais par le sentiment de la précarité et qui ne sait plus si elle doit regarder vers le passé ou vers l'avenir. Rien du reste ne dit mieux cela qu'une phrase de Musset dans « Les confessions d'un enfant du siècle » Musset dit « On ne sait plus si on marche sur un germe ou sur un débris ». Et Hugo commente « C'est de ces détails que l'histoire officielle néglige et qui sont la physionomie des années que se compose la mémoire des siècles ». Et on le verra de la même manière, réfléchir à ce constat apparemment sans intérêt, les enfants de canailles portent désormais des prénoms prétentieux, les filles Thénardier s'appellent Éponine et Azelma, tandis que les fils de marquis se satisfont désormais de s'appeler tout bonnement Jacques ou Thomas. Qu'est-ce qu'il y a dans ce constat, s'interroge Hugo ? Eh bien, un grand fait, celui de la Révolution française. Je crois qu'on comprend mieux alors le traitement que Hugo réserve à l'histoire dans Les Misérables. D'un côté, comme on le voit pour Waterloo, il arrache l'histoire à l'enregistrement pur des faits. C'est un point de vue misérable, selon lui, et mesquin, que la dictature du fait. Et il veut réécrire l'histoire sous l'angle des principes. Mais de l'autre côté, il veut aussi que l'historien soit l'historien de la vie profonde, quotidienne et cachée des êtres, qu'il relève les actions microscopiques, les objets prosaïques qui datent une époque, comme par exemple le kaléidoscope et la lampe de fer blanc moirée dans l'auberge Thénardier attestent qu'on est en 1823. Hugo plaide donc pour une histoire qui soit à la fois plus réaliste et plus symbolique. Et elle est du même coup aussi une histoire qui est affranchie jusqu'à un certain point de l'exactitude, ou en tout cas qui y prétend peu, parce que l'exactitude n'est pas la vérité. Dans ces détails, dit Hugo tranquillement, le lecteur rencontrera deux ou trois circonstances invraisemblables que nous maintenons par respect de la vérité. Ce n'est pas à une vue exacte que prétend Hugo, c'est à une double vue. Et c'est une histoire, en revanche, qui est soumise à la fiction. Ce que Les Misérables mettent en évidence, c'est la dépendance du personnage historique par rapport au personnage romanesque. Par exemple, l'évocation de Napoléon dans le roman est le plus souvent appelée par les projets ou par les trajets des personnages romanesques. Il suffit de penser à l'itinéraire de Jean Valjean. Jean Valjean est parti au bagne dans la grande chaîne de Bicêtre le jour même où était proclamée la victoire de Bonaparte à Montenotte. Et il revient du bagne par les chemins où Napoléon est passé, retour de l'île d'Elbe, 7 mois plus tôt. Il s'assied sur le banc de pierre où le général Drouot est monté pour lire la proclamation du golfe Juan. Il frappe à l'auberge qui avait hébergé l'empereur. Il couche à la porte de l'imprimerie d'où sont sorties pour la première fois les proclamations impériales. Et cette proximité entre le forçat et l'empereur, qui sont du reste l'un et l'autre des êtres doubles, mais ça c'est une autre affaire, cette proximité est encore attestée après l'affaire Champmathieu, quand le forçat se dévoile lui-même pour sauver un innocent, par le commentaire acerbe d'une vieille punaise légitimiste qui dit « cela apprendra aux bonapartistes ». Alors de même que le personnage romanesque commande l'apparition du personnage historique, c'est le temps romanesque qui commande le temps historique. Le temps historique qui ordonne les événements selon un axe chronologique est un temps linéaire. Dans le temps romanesque, en revanche, il y a des éclipses, il y a des moments morts, il y a des zones de silence dont l'histoire n'a pas grand-chose à dire. Et alors qu'un historien s'attacherait à remplir ses blancs, à retrouver de la continuité ou de la rationalité dans le récit, le romancier, lui, s'accommode du mystère. pourquoi Monseigneur Myriel, qui est parti en Italie dès les premiers jours de la Révolution et qui là-bas est devenu veuf, s'est-il fait prêtre ? Nul, dit tranquillement Hugo, ne le saura jamais. Que sont devenus les neveux de Jean Valjean ? Ils se sont effacés dans la brume de la misère et de l'oubli. Le lecteur n'en saura pas davantage. Et il y a encore des périodes calmes, dépourvues d'événements, celles, entre parenthèses, où les héros de Hugo se sentent le plus heureux, preuve que sa vision globale de l'histoire est une vision noire. Mais le temps historique cède alors sa place au temps biologique, et c'est le cas des années passées par Jean Valjean et Cosette au couvent du Petit Picpus, qui sont racontées à l'imparfait d'une durée quasiment immobile et dont le dernier mot est « Cosette grandissait ». Alors ce traitement général de l'histoire est aussi appliqué par Hugo dans Les Misérables à l'interprétation politique de son siècle. On sait que la gestation du livre a été très longue, puisque le roman, commencé par Hugo en 1845, s'achève 17 ans plus tard à travers des abandons, des reprises, des digressions et des bourgeonnements infinis. Et dans l'intervalle, le père de France d'une monarchie bourgeoise est devenu le député de gauche d'une assemblée républicaine, puis le proscrit d'un nouvel empire. Et entre l'exilé du rocher de Guernesey et le père de France, s'est creusée à la fois la distance du temps et aussi de l'espace. Et comme le roman retraverse la succession des régimes qui ont été essayés puis abandonnés par les Français au cours de ce siècle chaotique, on est tenté de lire Les Misérables comme le récit à peine arrangé de l'évolution politique de Hugo lui-même, qu'il a cherché à résumer dans une note synthétique qui est tout à fait intéressante. « Royaliste en 1818 », dit-il. Notons qu'il a 16 ans. « Royaliste libéral en 1824 ». « Libéral tout court en 1827 ». En 1828, libéral socialiste. En 1830, libéral socialiste démocrate. En 1849, libéral socialiste démocrate républicain. Alors on peut remarquer qu'en dehors de l'épithète royaliste, qui s'engloutit complètement, Hugo procède par adjonction. D'une seule épithète en 1827, on est passé à 4 en 1849, d'où on peut, du reste, tirer l'idée que le tempérament de Hugo est plus enclin à l'arrangement et à la conciliation qu'à l'exclusion. Or, cet itinéraire est presque intégralement refait par un des personnages des Misérables, Marius, le jeune premier, dont Hugo écrit qu'après avoir dépouillé l'aristocrate, le jacobite et le royaliste, il devient pleinement révolutionnaire, profondément démocrate et presque républicain. Le personnage de Marius a en effet beaucoup à partager avec son créateur. Hugo a pourvu le jeune homme d'une double ascendance, comme lui-même. Un père colonel d'empire pour Marius, le père de Hugo, était général. Du côté de la mère, en revanche, et du père de la mère qui élève le garçon après le décès de celle-ci, Marius tient, comme Hugo lui-même, au légitimisme du noble faubourg. Et comme Hugo encore, Marius suit un chemin qui le mène du royalisme hérité de la mère au bonapartisme lorsqu'il découvre son père, puis au républicanisme. Ce personnage sert donc la démonstration de Hugo, qui est intéressé à montrer comment on peut aller, non sans quelques zigzags, il est vrai, de l'ode pour le duc de Bordeaux à l'ode dédiée à la République, en passant par l'ode à la colonne. Et cette justification personnelle explique pourquoi il met tant de minutie à décrire l'itinéraire de Marius. C'est qu'il cherche à comprendre lui-même le royalisme dans lequel il a grandi et à montrer comment il s'en est peu à peu dégagé pour se convertir à la République. Et on peut donc lire Les Misérables, comme l'ont fait beaucoup de critiques, comme un roman d'apprentissage politique, une histoire qui se veut non de rupture brutale, comme le montre assez la note synthétique dont j'ai parlé, mais comme d'une addition d'étapes, et en les retraçant, Hugo ne cherche nullement à faire le catalogue de ses erreurs de jeunesse, mais il cherche à montrer ce qu'il y avait de respectable dans chacun des paliers. Et c'est pourquoi on ne trouve pas seulement dans son roman une confidence oblique sur un itinéraire personnel, mais on trouve aussi une évaluation de chacune des phases parcourues par cette histoire de France orageuse. Et j'essaierai donc de suivre cette marche, mais si vous m'y autorisez, à l'envers, à rebours, pour finir ce qui est à la source même de tout ce qui va suivre et qui est l'immense événement de la Révolution française. Il y a une séquence de l'histoire nationale que Hugo ignore à peu près dans son roman, et c'est celle que les Français vivent à l'époque où il écrit le roman, où il finit le roman, et qu'il vit lui-même à travers l'exil. Le Second Empire n'a droit dans Les Misérables qu'à de très brèves allusions qui sont perdues dans l'océan du texte. En revanche, la monarchie de Juillet et la Restauration sont l'objet d'un traitement tout à fait argumenté, et quant à la Révolution et à l'Empire, ils sont présents dans tout le cours du roman. Commençons donc par ce qui est le plus proche dans le regard du proscrit, la monarchie de Juillet, qui occupe du reste une place de choix dans la pensée de Hugo, parce que c'est dans les années ouvertes par les Trois Glorieuses qu'il devient démocrate et qu'il se prépare à devenir républicain. Les Misérables comportent deux très intéressants chapitres en diptyque, bien coupés, mal cousus. Deux chapitres où l'exilé du Second Empire dialogue avec le père de la monarchie bourgeoise qu'il a été. Il y a dans ces pages d'abord un hommage à 1830 comme l'œuvre même de Dieu. Un respect mystérieux sort des événements dans lesquels on sent la collaboration de quelqu'un qui travaille plus haut que l'homme. Et à 1830, Hugo rend la justice due à une révolution qui s'est faite sans trop d'effusion de sang, qui marque du reste le triomphe du droit sur le fait, révolution donc bien coupée. Et les révolutionnaires, par ailleurs, ont eu l'astuce de chercher le meilleur des rois possibles et de le trouver. Un roi mitoyen à la monarchie, dit Hugo, capable à la fois de rappeler le souvenir de la Révolution et de l'exorciser. Un roi de compromis, par conséquent, dont Hugo fait un portrait splendide dans Les Misérables, en concluant que la seule chose qu'on puisse retenir contre ce roi d'un nouveau genre, c'est le trône, si bien que dans les griefs que l'histoire pourrait nourrir envers Louis-Philippe, il y a une défalcation à faire. Il y a ce qui accuse la royauté, il y a ce qui accuse le règne, et il y a ce qui accuse, dit Hugo, ce roi. Trois colonnes, donc, dont chacune présente un total bien différent. Et ceci accordé, tout à l'avantage de Louis-Philippe, bien entendu, Hugo enchaîne par le chapitre « Mal cousu » qui est destiné à montrer qu'après une coupure bien faite, on a enchaîné par une couture maladroite. une maladresse qui est née des qualités mêmes du roi et des habiles qui l'ont entouré, qui ont été anxieux d'arrêter la révolution à mi-côte, de casser l'élan révolutionnaire, de faire halte trop vite. Et ils n'ont pas prêté attention à ce qui frappe tellement Hugo et qui est le cheminement qui, dans cette accalmie Louis-Philippe part d'un peu médiocre, un peu plate, se fait sous le couvert de l'apparente immobilité. Chacun faisait en avant le pas qu'il avait à faire, les royalistes devenaient libéraux, les libéraux démocrates. Et dans cette marche insidieuse, Hugo repère le mûrissement sous la monarchie d'une alliance étrange qui se noue contre la pusillanimité de Louis-Philippe et de son règne et qui rapproche les fidèles de la Révolution et ceux de l'Empire, qui du reste se retrouvent si souvent alors, en effet, dans des sociétés secrètes qui sont peu regardantes sur leurs adhérents. Il s'agit là d'un mixte politique qui est plus animé par la réaction contre le régime que par le projet d'en construire un nouveau, qui est fait d'émotions plus que d'arguments, mais qui se nourrit des images de la grandeur nationale. Et la célébration conjointe du bonapartisme et de la liberté, qui est pour le moins paradoxale, prépare l'adhésion à la République future. Elle explique l'itinéraire de Marius, elle explique aussi l'itinéraire de Hugo. Si on fait un pas de plus en arrière, on trouve la Restauration, que Hugo jeune a célébré dans ses poèmes et qui, dans Les Misérables, est évoqué par les salons ultra et surtout sous la forme du salon sénile de Madame de T, ultra parmi les ultras, où Marius enfant est traîné par son grand-père dans les chuchotements de la vénérable compagnie qui manifeste ainsi sa compassion navrée pour ce joli petit garçon qui a eu la malchance d'avoir un père sabreur de l'Empire. Lamartine reprochera à Hugo ses descriptions du monde ultra et l'ingratitude, dit-il, de Hugo pour une restauration qui est notre mère et à qui il ne faut pas arracher son manteau après sa mort. En réalité, ce que Hugo reproche surtout à la Restauration, c'est son inconscience d'elle-même. Elle crut, dit-il, la Restauration, qu'elle avait de la force parce que l'Empire avait été emporté devant elle comme un châssis de théâtre. Elle ne s'aperçut pas qu'elle avait été apportée de la même façon. Et par ailleurs, Hugo voit à plein et plus profondément que quiconque la contradiction des légitimistes qui sont en proie à deux tentations antagonistes. Première tentation, oublier la Révolution, la mettre entre parenthèses. Ainsi, quand Louis XVIII, avec, reconnaît Hugo, un certain panache, date le préambule de la charte de la mort du petit dauphin au temple, comme si tout l'intervalle n'avait pas existé. Et d'autre part, tentation inverse, celle de célébrer les victimes, les nobles guillotinés, les prêtres persécutés, de pleurer sur Marie-Antoinette et Louis XVI, de leur vouer un culte ritualisé qui a ses reliques, c'est-à-dire de ne pas oublier. Donc oublier, ne pas oublier, la Restauration est écartelée entre ces deux impératifs. Et si vous me concédez qu'on ne peut oublier que ce que l'on n'a plus vraiment besoin d'oublier, vous admettrez aussi à quel point le pari était impossible. Cela dit, contrairement à ce que prétend Lamartine, il n'y a dans cette description aucune dérision chez Hugo. Et bien au contraire, il y a la reconnaissance du fait que les erreurs mêmes de la Restauration n'ont pas été inutiles. La première Restauration a amélioré les libertés. La seconde restauration, certes, les a restreintes, et cette rétraction lui a été funeste, tout simplement parce que le peuple français ne pouvait plus les accepter après avoir goûté au vin de la liberté. Mais ce rejet même a préparé les transformations futures. Et de la même façon, les idées doctrinaires, c'est-à-dire le plaidoyer pour des institutions qui soient à la fois monarchiques et libérales, ces idées doctrinaires avaient commencé à faire leur chemin dans les salons pourtant si ankylosés de la Restauration. Et donc, ce n'est pas avec sarcasme, mais même avec tendresse, que l'exilé de Guernesey traite la séquence de la monarchie restaurée, où il admet avoir ses racines affectives. Il écrit, dans le cours de ce récit, « L'auteur de ce livre a trouvé sur son chemin ce moment curieux de l'histoire contemporaine. Il a dû retracer quelques-uns des linéaments singuliers de cette société aujourd'hui inconnue, mais il le fait sans aucune idée amère ou dérisoire, des souvenirs affectueux et respectueux, car ils touchent à sa mère, l'attachent à ce passé. Derrière ces monarchies restaurées, il y a l'Empire et la Révolution que l'enfant Marius, comme l'enfant Victor, avait appris dans les salons ultra à ne pas séparer, à confondre dans la même détestation. Sur ces époques flamboyantes de l'histoire française, le jugement de Hugo, une fois encore, est double. Chacune de ces époques a ses lumières et ses ombres, et on sent à quel point, au rebours de la réputation qui lui a été faite, Hugo n'est pas manichéen. L'admiration pour l'Empire et pour le fabuleux personnage de Napoléon qui a fait sonner à travers l'Europe une fanfare de titan se double du recul devant le despote qui perce sous le guerrier héroïque. Et comme vous savez, Marius apprend des jeunes républicains dont il fait la connaissance dans l'arrière-salle du café Musain, sous une carte jaunie de la France républicaine. Marius apprend de ses jeunes camarades à quel point il est difficile de marier la gloire des armes à la gloire de la liberté. Et donc, on ne peut pas porter à l'Empire une admiration sans partage. Et quant à la Révolution, elle est vue dans Les Misérables comme l'époque glorieuse qui a travaillé à l'émancipation humaine et qui a annoncé la fin de l'histoire comme injustice. Mais elle n'en reste pas moins elle-même porteuse de destruction et de mort. Même quand il est admirateur des grands révolutionnaires, Hugo reste hanté par le problème du mal et de la violence et par l'horreur du sang versé. Il y a deux personnages dans Les Misérables qui peuvent prétendre incarner 1793. L'un est le père Mabeuf qui est décrit à la fin du livre sur la barricade comme un spectre de 1793, mais ce n'est qu'un malentendu parce qu'il s'agit en réalité d'un paisible botaniste. Donc, fausse incarnation. Et puis, l'autre incarnation, c'est le personnage d'Enjolras. Cette fois, c'est bien une réincarnation de Saint-Just, un archange meurtrier qui accepte, pour les besoins de la cause, d'utiliser les moyens d'hier, dit Hugo, c'est-à-dire la terreur. Mais Marius, lui, a la même répugnance que son créateur Hugo à célébrer comme un bloc une révolution qui pour lui a ouvert la boîte de Pandore des férocités, si bien que l'entrée de Marius dans la barricade, qui du reste est un acte plus amoureux que politique, cette entrée de Marius dans la barricade ne vaut pas absolution de 93 ni de Robespierre, si bien que le message que délivrent les misérables n'est jamais univoque ni asservi à l'idéologie. Alors qu'est-ce qu'on peut conclure de cette ambivalence de Hugo dans l'interprétation de la succession des régimes ? La première remarque à faire, il me semble, c'est qu'il y a un au-delà de la politique. Un au-delà de la politique qui juge la politique. Ni les vies, ni les événements, ni les hommes ne se résument à la politique. Il n'y a pas de héros moins politique que Jean Valjean. Son obsession est d'ensevelir son passé et de s'ensevelir lui-même avec Cosette dans une amnésie bienheureuse. Quand il projette d'émigrer en Angleterre pour fuir ceux qui viennent de retrouver sa trace, il médite être en France, être en Angleterre. Qu'est-ce que ça pouvait faire ? Pourvu qu'il ait Cosette auprès de lui, Cosette était sa nation. Et quand Cosette surprend la conversation où Marius est en train d'apprendre de Jean Valjean qu'il a épousé la fille adoptive d'un forçat, Cosette arrive trop tard pour pénétrer le sens de la conversation, mais elle pressent qu'il y a là une source de chagrin torturant et elle s'écrie « Parions que vous faites de la politique ». Et il faut bien ajouter que les seuls moments où Jean Valjean se sente heureux, c'est à l'abri des murs du couvent, sorti pour un temps de l'histoire. Et quant à Marius et Cosette, comme je l'ai déjà dit, l'amour les enferme dans une bulle radieuse où ne peuvent les atteindre les flèches de l'histoire, et c'est à peine s'ils s'aperçoivent que l'épidémie de choléra est en train de sévir autour d'eux. Donc, le bonheur naturel et privé rend momentanément aveugle à la souffrance historique et publique, et Hugo se montre très indulgent à l'égard de ce type d'aveuglement. Il n'y en a pas moins de leçons politiques à tirer de ce roman désillusionné. Et d'abord, qu'il faut unifier l'histoire nationale, c'est-à-dire permettre aux Français d'aimer toute leur histoire. Autrement dit, de vaincre la malédiction qui veut que ceux des Français qui aiment l'Ancien Régime détestent 1789 et réciproquement. Pour Hugo, il s'agit de montrer qu'en chacune des étapes, il y avait quelque chose certes à repousser, mais qu'il y avait aussi quelque chose à admirer et qu'il faut donc rendre justice au passé tout entier, mais précisément pour se dégager de sa tyrannie, pour pouvoir oublier le passé. Ce qui disqualifie les amis de l'ABC, ces membres de la société secrète qui sont en train de préparer l'insurrection, c'est d'être resté fixé à l'obsession de 1793 qu'ils s'imaginent pouvoir refaire telle qu'elle. Ils se trompent de révolution et c'est pour cela du reste qu'ils prennent le père Mabeuf, l'inoffensif faiseur d'herbier, pour un régicide. Ils n'ont pas compris que les formes prises par l'épisode terroriste de la Révolution française sont des formes obsolètes et que la Révolution n'est pas à refaire telle qu'elle, même si, et c'est la seconde face de l'affirmation, cette Révolution est toujours vivante dans le tissu de l'histoire française. S'il y a une certitude dans Les Misérables, c'est bien que la Révolution n'est pas terminée. Elle est toujours au travail dans le siècle. C'est elle qui inspire Bonaparte lorsqu'il jette à bas les vieux trônes européens. Et c'est elle encore qui inspire Louis XVIII lorsque, tout à la fois, il octroie et il subit la Charte. Mais cette interprétation d'une révolution toujours vivante et en un sens fatal ouvre l'immense problème philosophique du sens de l'histoire pour Hugo. Dans Les Misérables, Hugo paraît à plusieurs reprises adhérer à l'idée que la Révolution française relève de l'intervention de Dieu dans l'histoire, ce qui lui fait tenir des propos que ne désavoueraient ni Joseph de Maistre ni Bossuet. Où peut-on voir un signe de la main cachée de Dieu dans la Révolution française ? Dans l'évidente disproportion entre la médiocrité des hommes et leur stature dans les grands événements. On ne peut comprendre la destinée fabuleuse de ces petits avocats de province qui rimaient des vers galants dans les salons et qui se transforment brusquement en Danton ou en Robespierre, sans penser qu'ils sont les instruments inconscients de la divinité. Qu'il est beau de voir Darius et Cyrus, César et Cléopâtre agir sans le savoir pour la gloire de l'Évangile, s'émerveillait Bossuet. On pourrait parfaitement remplacer César et Cléopâtre par Danton et Robespierre et obtenir une phrase de Hugo. C'est la loi de Dieu que l'on peut lire dans l'histoire, Hugo en est certain. Mais si un metteur en scène divin est partout visible dans l'histoire, s'il en écrit le livret, s'il en distribue les rôles, s'il en imagine l'intrigue, et si, comme Hugo l'affirme à plusieurs reprises, il mène l'humanité au progrès, cette certitude fait lever les questions en foule, les questions sur Dieu, les questions sur l'homme. Commençons par les questions sur Dieu. Pourquoi Dieu a-t-il recours à un répertoire aussi tragique, à une histoire aussi calamiteuse ? Pourquoi l'humanité est-elle prise dans la succession épuisante des destructions, suivies des germinations, suivies encore de nouvelles destructions ? C'est la méditation angoissée que mène sur la barricade un des personnages de Hugo, le doux Grantaire, qui rêve à « si j'étais Dieu ». Et Grantaire dit « si j'étais lui, je tricoterais les faits maille à maille, sans casser le fil, je n'aurais point d'encas, je n'aurais pas de répertoire extraordinaire. » Pourquoi donc aller au bien par le mal ? Pourquoi faire sortir la civilisation de la barbarie ? À bien des reprises, Hugo suggère que Dieu préférerait mener les hommes vers un progrès en pente douce, et que donc, s'il a recours à des révolutions, à des émeutes, à des exactions, à du sang versé, eh bien, c'est qu'il ne peut pas faire autrement. Affirmation, vous en conviendrez, vertigineuse, et que cependant, Hugo maintient malgré tout. La révolution, pour Hugo, est un trébuchement de Dieu, utile pour mettre fin à une histoire peu satisfaisante ou pour réparer une solution de continuité entre le passé et le présent. Question immense sur Dieu, par conséquent, question immense aussi sur l'homme. Parce que cette solution ambiguë semble ranger Hugo du côté d'une vue providentielle de l'histoire qui dépossède l'homme de son initiative responsable et libre. Et c'est pourtant à cette extrémité que Hugo ne va pas. Et ce qui le préserve de souscrire à cette nécessité, c'est l'accent qu'il met toujours sur l'individu et sur la liberté. Et ce qui est chargé de le montrer dans Les Misérables, c'est l'épisode célèbre de l'affaire Champmathieu et de la tempête sous un crâne. Vous connaissez tous l'histoire. Jean Valjean, qui a échappé au bagne, est devenu un industriel prospère et généreux, dont dépend le bonheur collectif de Montreuil-sur-Mer, la commune dont il est devenu le maire. Et au moment de l'affaire Champmathieu, il se prépare de surcroît à assurer le sauvetage de Fantine et de sa fille Cosette, lorsqu'un malheureux voleur de pommes est reconnu par trois forçats pour être le véritable Jean Valjean. Dénonciation apparemment imparable et qui assurerait le salut définitif de Valjean, de Fantine, de Cosette et puis celui-même de la population entière de Montreuil-sur-Mer. Et vous savez que Jean Valjean décide, après la tempête sous un crâne, de gagner le tribunal d'Arras pour se dénoncer, que nombre d'obstacles matériels surgissent sur sa route, dont on pourrait parfaitement penser qu'ils sont envoyés par Dieu pour le sauver, lui, Valjean, et son œuvre. Et par instant, c'est bien la tentation à laquelle le forçat est tout près de céder, c'est décidé, laissons aller les choses, laissons faire le bon Dieu. Mais quelque chose en lui résiste à l'idée que dans les obstacles qui se dressent sur sa route, il y a la volonté visible de Dieu, et finalement, il choisit de s'en remettre au Dieu invisible que lui souffle sa conscience, et il choisit de donner librement à l'histoire un dénouement qui porte sa marque personnelle, même si ce choix le renvoie au bagne et fait le malheur de Cosette, de Fantine, du pays tout entier. Et c'est là, il me semble, qu'on saisit la profonde différence de la philosophie de Hugo avec celle de Lamennais. Lamennais explique qu'on doit se garder de penser que le salut individuel est le but unique, le but principal des préceptes de Jésus. C'est le genre humain qu'il a voulu sauver, et le salut d'un homme n'est qu'un moyen, un élément dans ce salut de tous, si bien que l'être véritable pour Lamennais, c'est l'être collectif. En revanche, pour Hugo, l'être véritable, c'est l'être singulier. Le dernier mot reste toujours à la liberté individuelle, si bien que la conviction que Dieu mène le monde ne dispense pas l'homme de faire son devoir et d'agir. L'homme n'est jamais, chez Hugo, dépossédé de son initiative personnelle. Et c'est aussi pour cela que dans Les Misérables, le déterminisme historique trébuche à chaque pas. Aucun être n'est tout uniment représentatif de sa classe. Luc Esprit Gillenormand est un bourgeois, mais il pérore et il règne dans un salon féodal. Aucun être n'est enfermé dans sa profession. Monseigneur Myriel est prêtre, mais il a été conseiller au Parlement, il a travaillé de ses mains dans une fromagerie du Jura. Jean Valjean est un émondeur, mais il est devenu forçat, industriel et maire. Thénardier est un voleur et un déclassé, mais qui sait lire et écrire et qui a quelques teintures d'alphabétisation. Nul non plus n'est défini par sa famille. Éponine et Gavroche sont des enfants de canaille, mais ce sont des cœurs tendres et généreux. Chez Hugo, il n'y a jamais de généalogie contraignante. Les riches ne sont pas définis par leurs possessions, ni les bandits par leurs couteaux. Il y a toujours une marge de liberté. Et même Javert, qui est un personnage si mécanique, choisit finalement le suicide contre ce qui est la loi de sa vie, c'est-à-dire la recherche méticuleuse et myope des exactions. Cette indétermination est ce qui empêche Les Misérables d'être tout uniment un roman à thèse, un prêche catholico-socialiste, comme on dit de concert Barbet et Flaubert. Leur lecture des Misérables s'appuie sur le discours d'Enjolras sur la barricade, mais Enjolras est une figure chimérique, irréaliste, un clone attardé de Saint-Just. Et cette lecture des Misérables s'appuie par ailleurs sur quelque chose de plus intéressant et de plus convaincant, et qui est le propos de Hugo lui-même sur son livre. Hugo a confié avoir voulu appeler son livre « Le Progrès ». Les Misérables sont un meilleur titre, hein. Mais bref. Et le roman, à ses yeux, devait faire luire une période d'abolition de la misère matérielle morale et intellectuelle. Mais je crois qu'il faut singulièrement nuancer cet optimisme. Dans la préface des Misérables, Hugo dit que son livre est un livre utile et le restera tant que ne seront pas résolus les trois problèmes du siècle, la dégradation de l'homme par le prolétariat, la déchéance de la femme par la faim, l'atrophie de l'enfant par la nuit. Une cascade de conditions qui conteste toute tentation d'optimisme prématuré. Et cet optimisme est aussi contesté par la conclusion du livre, parce que sans doute quelques canailles ont été éliminées et punies, mais il y a toujours des femmes contraintes de se prostituer, il y a toujours des enfants martyrisés, et le progrès que M. Madeleine a fait faire à Montreuil-sur-Mer s'est interrompu net. Il y a donc des éclipses, il y a des régressions, il y a le sentiment d'un piétinement, et Hugo commente « la besogne du siècle languit ». Et surtout, il y a une limite infranchissable qui ne tient pas seulement aux lenteurs de l'histoire. C'est que pour Hugo, si on peut sortir de la misère, on ne peut pas sortir de la douleur qui est liée à la finitude de la condition humaine. La vie terrestre peut sans doute s'améliorer, mais on ne peut pas vaincre la mort de ce qu'on aime, pas plus qu'on ne peut nier l'immémoriale présence de la haine. Et c'est aussi la raison pour laquelle le roman, ce roman du progrès, s'achève sur des pages aussi noires. Apparemment, tout finit bien. La petite pauvresse détestée est devenue l'épouse adorée et fortunée de son prince charmant. Mais cette île heureuse est cernée par l'océan du malheur. Le bonheur de Marius et de Cosette a fait le malheur d'Éponine, qui s'est sacrifiée pour Marius. Et puis il fait aussi le malheur de Jean Valjean, qui est tristement payé de tout son héroïsme par l'ingratitude des jeunes mariés. Et quant à ces jeunes mariés, on ne peut même pas être sûr que leur aventure personnelle et historique, puisque Marius a été un héros de la barricade, soit quelque chose dont il retire d'autres préceptes que ceux d'une vie bourgeoise honnête et compatissante aux malheureux, mais rien de plus. Bref, pour arriver à cette sagesse ordinaire, il aura fallu les exploits fabuleux de l'homme qui a escaladé les murailles, qui s'est échappé deux fois au bagne, qui s'est englouti dans la mer, dans la tombe, dans l'égout. Et c'est là la leçon un peu désabusée et étrange d'un roman apparemment progressiste. Je voudrais dire en conclusion que Hugo crée, avec Les Misérables, un roman, un univers qui n'est pas du tout manichéen, qui tient toujours compte de la complexité des êtres et des situations. Et c'est elle, cette complexité, qui préserve dans le roman la part du mystère, et c'est là qu'on saisit toute la différence qu'il y a entre le récit romanesque et le récit historique. Le but du récit historique, c'est l'intelligibilité. Le récit romanesque, lui, fait sa part à ce qu'on ne peut et qu'on ne pourra jamais comprendre. Les Misérables font défiler des personnages qui comprennent fort peu de l'histoire qu'ils vivent. Les émeutiers, pas plus que Marius, pas plus que Javert, ne comprennent rien au personnage de Jean Valjean. Marius, tout au long du roman, trébuche de méprise en erreur. Cosette ignorera toujours qui elle est exactement. Rien n'est univoque, les êtres sont doubles. Éponine est à la fois une bonne et une mauvaise fée. Cosette est tout ensemble ingénue et cruelle. Monsieur Madeleine donne 50 francs à Fantine parce qu'il est bon, mais il la chasse parce qu'il fait confiance avec légèreté à une dénonciatrice. Cette ambiguïté persistante explique que Les Misérables aient été si fraîchement accueillis par la critique. Le roman a eu contre lui non seulement la presse de l'Empire, ce qui était attendu, mais aussi les journaux orléanistes et même les journaux républicains. Trop d'hymnes au progrès, à l'émancipation et trop d'appels à la subversion sociale pour la presse de droite. Mais trop de noirceur, trop de lenteur et trop de piétinement pour la presse de gauche. Tout le monde a été déconcerté, mais cette perplexité de l'opinion publique devant cette œuvre monstrueuse est à mes yeux ce qui fait la beauté et la grandeur de Hugo.
C'était Victor Hugo et Les Misérables, une conférence donnée par Mona Ozouf à la Bibliothèque nationale de France, diffusée le 2 août 2002 sur France Culture à l'occasion du bicentenaire de Victor Hugo. Vous pouvez la télécharger et la réécouter à la page des nuits sur le site franceculture.fr.